Deuxième partie. La clé et la rose. Chapitre 1. John Chambers, dit Jake, passa 3 semaines à lutter courageusement contre la folie qui montait en lui. Durant cette période, il se sentit dans la peau du dernier passager à bord d'un transatlantique, pompant comme un damné, s'efforçant d'empêcher le navire de couler jusqu'à ce que la tempête se calme, que le ciel s'éclaircisse, que les secours arrivent, des secours venus de nulle part, des secours venus de quelque part, de n'importe où. Le 31 mai 1977, 4 jours avant les vacances d'été, il finit par accepter le fait que les secours n'arriveraient jamais. L'heure était venue de renoncer. L'heure était venue de se laisser emporter par la tempête. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut sa composition de fin d'année en anglais. John Chambers, Jake, pour les 3 ou 4 garçons qui étaient presque ses amis, si son père avait eu vent de ce factoïde, il aurait sûrement piqué une crise, achevait sa 6e à l'école Piper. Il avait 11 ans, mais était petit pour son âge, et les gens qui le voyaient pour la première fois le croyaient souvent beaucoup plus jeune. En fait, on le prenait parfois pour une fille jusqu'au jour où, 1 ou 2 ans plus tôt, il avait tellement insisté pour se faire couper les cheveux que sa mère avait fini par rendre les armes. Son père ne lui avait posé aucun problème, bien sûr. Il s'était contenté de décocher son sourire en acier inoxydable et de dire « Le gosse veut ressembler à un marine, le riz. Grand bien lui fasse. » Son père ne l'appelait jamais Jake, l'appelait rarement John. Pour son père, il était le gosse, un point c'est tout. L'été précédent, c'était l'été du bicentenaire, les rues de New York étaient pleines de drapeaux et de banderoles, le port de New York était plein de grands vaisseaux. Son père lui avait expliqué que Piper était tout simplement la meilleure putain d'école du pays pour un garçon de ton âge. Le fait que Jake ait été admis dans cet auguste établissement n'avait rien à voir avec l'argent, expliqua Elmer Chambers, presque avec insistance. Il était farouchement fier de ce fait, même si Jake, en dépit de ses 10 ans, avait soupçonné le dit fait de ne pas être entièrement véridique, de n'être qu'une connerie que son père avait transformée en fait à seule fin d'alimenter la conversation lors d'un dîner ou d'un cocktail. « Mon gosse ? Oh, il est à Piper, la meilleure putain d'école du pays pour un gamin de son âge. C'est pas le fric qui vous permet d'y entrer, vous savez. Pour entrer à Piper, il faut en avoir dans la tête. » Jake savait parfaitement que dans le chaudron qui servait d'esprit à Elmer Chambers, le carbone des souhaits et des opinions donnait souvent naissance à de gros diamants qu'il appelait des faits, ou, quand il était vraiment détendu, des factoïdes. Son expression préférée, qu'il employait souvent et toujours avec révérence, était « le fait est », et il ne manquait pas une occasion de la placer dans la conversation. « Le fait est que l'argent n'a jamais aidé personne à entrer à Piper », lui avait dit son père durant l'été du bicentenaire, l'été du ciel bleu, des banderoles et des grands vaisseaux, un été qui avait pris dans l'esprit de Jake des allures d'âge d'or, parce qu'il n'avait pas commencé à perdre l'esprit à ce moment-là, préoccupé qu'il était à se demander s'il avait l'étoffe d'un élève de Piper, une école qui ressemblait à une pépinière de génie prépubère. La seule chose qui te permet d'entrer dans un endroit comme Piper, c'est ce que t'as entre les oreilles. Elmer Chambers avait tendu le bras au-dessus de son bureau et pointé sur le front de son fils un doigt jauni par la nicotine. « Pigé, le gosse ?» Jake avait acquiescé. Il n'était pas nécessaire de répondre à son père car celui-ci traitait tout le monde, y compris sa femme, de la même façon que les sous-fifres de sa chaîne de télé où il était responsable des programmes et considéré comme un maître dans la discipline de la mise à mort. Il suffisait de l'écouter avec attention, de hocher la tête lorsque c'était nécessaire, et il finissait par vous lâcher les baskets. « Bien », avait dit son père en allumant une de ses 80 camels quotidiennes. « Nous nous sommes compris. Tu vas devoir te tuer à la tâche pour réussir, mais tu y arriveras. Sinon, on ne nous aurait jamais envoyé ceci. » Il attrapa la lettre d'acceptation de l'école Piper et l'agita dans l'air. Ce geste était empreint d'un triomphe farouche, comme si ce bout de papier était un animal sauvage qu'il venait de tuer, un animal qu'il allait maintenant écorcher et manger. Alors, travaille dur, décroche de bonnes notes. Débrouille-toi pour que ta mère et moi soyons fiers de toi. Si tu réussis à avoir une moyenne de A à la fin de l'année, tu auras droit à un voyage à Disney World. Voilà qui devrait te motiver. Pas vrai, le gosse ? Jake avait une excellente moyenne, des A dans toutes les matières, sauf durant les 3 dernières semaines, bien sûr. Sa mère et son père étaient sûrement fiers de lui, mais ils les voyaient si rarement que c'était difficile à dire. En règle générale, il n'y avait personne à la maison quand il rentrait de l'école, excepté Greta Shaw, la gouvernante. Et c'était à elle qu'il avait fini par montrer ses bonnes notes. Après, il entassait ses copies dans un coin obscur de sa chambre. Il les parcourait parfois et se demandait si ses notes signifiaient quelque chose. Il l'aurait bien voulu, mais il entretenait de sérieux doutes à ce sujet. Jake ne pensait pas qu'il irait en voyage à Disney World cet été, moyenne ou pas moyenne. Un voyage à l'asile de fous lui semblait plus probable. Alors qu'il franchissait les portes de l'école Piper à 9h moins le quart le matin du 31 mai, une horrible vision visita son esprit. Il vit son père assis dans son bureau, 70 Rockefeller Plaza, une camelle pendue au coin des lèvres, le visage perdu dans un nuage de fumée, en grande conversation avec un de ses sous-fifres. Les rues de New York se déployaient derrière lui, leur vacarme étouffé par 2 épaisseurs de verre thermopane. Le fait est que l'argent n'a jamais aidé personne à entrer au sanatorium de Sunnyvale, disait son père avec une sinistre satisfaction. Il tendit le bras et tapa sur le front du sous-fifre. La seule chose qui vous permette d'entrer dans un endroit comme celui-ci, c'est quand quelque chose cloche entre vos oreilles. C'est ce qui est arrivé au gosse. Mais il se tua la tâche pour réussir. Il tresse les plus beaux paniers d'osier de l'établissement, me dit-on. Et quand on le laissera sortir, si on le laisse sortir un jour, il aura droit à un beau voyage. Un voyage au relais, murmura Jake. Il posa sur son front une main qui n'osait pas trembler. Les voix étaient de retour, ces horribles voix querelleuses qui le rendaient fou. « Tu es mort, Jake, tu as été écrasé par une voiture et tu es mort. Ne sois pas ridicule, regarde, tu as vu cette affiche. N'oubliez pas de venir au pique-nique de fin d'année. Tu crois qu'il y a des pique-niques dans l'au-delà ? » ?»« Je ne sais pas, mais je sais que tu as été écrasé par une voiture. » »« Non ! » !»« Si ! » C'est arrivé le 9 mai à 8h25 du matin. Tu es mort moins d'une minute plus tard. Non, non, non. John ? Surpris, il regarda autour de lui. Monsieur Bissette, son professeur de français, le considérait avec un air soucieux. Derrière lui, les autres élèves rentraient en rang dans la salle commune pour assister à l'assemblée du matin. Il n'y avait que très peu de chahut et pas de bruit du tout. Les parents de ses élèves, tout comme ceux de Jake, leur avaient sans doute dit à quel point ils s'étaient vernis d'aller à Piper, où les cerveaux avaient plus d'importance que l'argent, même si l'inscription annuelle s'élevait à 22 000 $. On avait sans doute promis un beau voyage à nombre d'entre eux, à condition qu'ils aient une bonne moyenne. Les parents des heureux gagnants iraient même sans doute jusqu'à tenir leur promesse. Sans doute. « John, est-ce que ça va ?» demanda M. Bissette. « Oui, dit Jake, ça va. Je me suis levé un peu tard ce matin, je ne suis pas encore réveillé, sans doute. » Le visage de M. Bissette se détendit et il sourit. « Ça arrive au meilleur d'entre nous. »« Pas à mon papa, » pensa Jake. « Le virtuose de la mise à mort n'a jamais de panne d'oreiller. »« Êtes-vous prêt pour votre examen de français ?» demanda M. Bissette. « Voulez-vous passer un examen avec moi cet après-midi ?»« Oui, je crois bien, » dit Jake. À vrai dire, il ne savait pas s'il était prêt pour l'examen. Il ne se rappelait même pas avoir étudié son français. Rien ne semblait important à ses yeux ces temps-ci, excepté les voix dans sa tête. « Je tiens à vous dire à quel point j'ai apprécié votre présence dans ma classe cette année, John. » J'aurais voulu le dire à vos parents, mais ils ne sont pas venus à la réunion de parents d'élèves. Ils sont très occupés, dit Jake. M. Bissette hocha la tête. Eh bien, je suis content de vous avoir connu, je tenais à vous le dire, et j'espère vous retrouver dans ma classe l'automne prochain. Merci. Jake se demanda quelle serait la réaction de M. Bissett s'il ajoutait « Mais je ne crois pas que j'étudierai le français la rentrée prochaine, sauf si je peux suivre des cours par correspondance dans ce bon vieux sanatorium de Sunnyvale. » Joanne Franks, la secrétaire de l'école, apparut sur le seuil de la salle commune, sa clochette plaquée argent à la main. Toutes les cloches de Piper étaient actionnées à la main. Jake supposait que c'était des détails comme celui-ci qui faisaient son charme aux yeux des parents d'élèves. Un souvenir de la petite école de leur enfance. Il détestait ça. Le bruit de la cloche lui taraudait le cerveau. « Je ne peux plus tenir très longtemps, » pensa-t-il avec désespoir. « Navré, mais je perds la boule. Je perds vraiment la boule. » M. Bissett avait aperçu Mme Franks. Il fit mine de s'éloigner, puis revint sur ses pas. Est-ce que tout va bien, John? Vous m'avez paru préoccupé ces derniers temps, troublé. Il y a quelque chose qui vous tracasse? Jake faillit succomber devant la gentillesse de son professeur, mais il imagina la tête que ferait M. Bissett s'il lui répondait « Oui, il y a quelque chose qui me tracasse. Un petit factoïde vraiment préoccupant. Je suis mort, voyez-vous, et je suis allé dans un autre monde. Et puis, je suis mort une seconde fois. Vous allez me dire que ce genre de truc est impossible, et vous aurez raison, bien sûr, et une partie de moi-même sait que vous aurez raison, mais la majeure partie de moi-même sait que vous aurez tort. C'est vraiment arrivé. Je suis vraiment mort. » S'il disait quelque chose dans ce genre, M. Bissett téléphonerait illico à Elmer Chambers, et le sanatorium de Sunnyvale ressemblerait à une partie de plaisir comparée à la discussion qu'il aurait avec son père au sujet des gosses qui perdent les pédales juste avant les examens de fin d'année. Des gosses qui font des trucs inaptes à alimenter la conversation lors d'un dîner ou d'un cocktail. Les gosses qui seuls est salé. Jake s'obligea à sourire à M. Bissett.
Je me fais un peu de soucis pour les examens, c'est tout.
M. Bissett lui fit un clin d'œil. Vous les passerez haut la main. Madame Franks agita sa clochette pour signaler le début de l'assemblée. Le bruit poignarda les oreilles de Jake et lui traversa le cerveau de part en part comme une petite fusée. Venez, dit M. Bissett, nous allons être en retard. On ne peut pas faire ça le premier jour des examens de fin d'année, n'est-ce pas? Ils passèrent devant Madame Franks et sa clochette. M. Bissett se dirigea vers la rangée baptisée le cœur de la faculté. Il y avait plein de noms ridicules de cet acabit à Piper. L'auditorium s'appelait la salle commune, la pause déjeuner le raout, les élèves de quatrième et de troisième les supérieurs, et les sièges pliants placés près du piano auxquels Mme Franks réserverait bientôt un traitement analogue à celui qu'elle infligeait à sa clochette formaient bien entendu le cœur de la faculté. Tout ça faisait partie de la tradition, supposait Jake. Un parent, sachant que son rejeton participait à un raout dans la salle commune plutôt que de manger du hachis parmentier à la cantine, se voyait ainsi assuré que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes de l'éducation. Il s'assit au fond de la salle et écouta distraitement les annonces du matin. La terreur qui habitait son esprit en permanence lui donnait l'impression d'être un écureuil condamné pour l'éternité à galoper dans sa cage. Et quand il essayait de songer à un avenir meilleur, il ne voyait que des ténèbres. Le navire de sa raison était en train de sombrer. Monsieur Harley, le principal, monta sur l'estrade et fit un bref discours sur l'importance de l'examen de fin d'année, affirmant que les notes qu'ils obtiendraient leur permettraient de faire un nouveau pas sur la grande route de la vie. Il leur dit que l'école comptait sur eux, que lui-même comptait sur eux, que leurs parents comptaient sur eux. Il n'alla pas jusqu'à dire que le monde libre comptait sur eux, mais il se débrouilla pour sous-entendre que tel était le cas. Il conclut son intervention en les informant que les cloches seraient silencieuses durant la semaine des examens. La première et la seule bonne nouvelle que Jake ait apprise ce matin-là. Madame Franks, qui avait pris place devant le piano, martela une mélodie qui se voulait évocatrice. Les élèves, 70 garçons et 50 filles, tous vêtus avec une élégance et une sobriété reflétant le goût et la stabilité financière de leurs parents, se levèrent comme un seul homme et entonnèrent l'hymne de l'école. Jake se contenta de remuer les lèvres et pensa à l'endroit où il s'était réveillé après sa mort. Il s'était tout d'abord cru en enfer, et lorsque l'homme à la robe noire était arrivé, il en avait été certain. Ensuite, bien sûr, était arrivé l'autre homme, un homme que Jake avait presque fini par aimer. « Mais il m'a laissé tomber dans l'abîme, pensa-t-il. Il m'a tué. » Il sentit des gouttes de sueur perler sur sa nuque et entre ses omoplates. « Saluons les murs de Piper, levons bien haut sa bannière, salut à toi, Alma Mater, j'ai réussi grâce à Piper. » « Bon Dieu, quelle chanson de merde !» pensa Jake, et il s'aperçut soudain que son père l'aurait adoré.